VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 13 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer les titres, au Mali, arrestation de terroristes présumés dans la région de Mopti. En Côte d'Ivoire, 6 journalistes ont été interpellés hier en rapport avec des informations publiées sur un supposé accord de paiement de primes entre le gouvernement et les éléments des forces spéciales. En Gambie, un soldat, ancien membre de la garde rapprochée de l'ex-président Yahya Jammeh, trouvé en possession d'une arme à feu dans une mosquée où se trouvait le président Adama Barrow. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion en urgence sur le tir d'un missile balistique effectué par la Corée du Nord. Ici aux États-Unis, les services d'immigration ont arrêté à travers le pays des centaines de sans-papiers depuis la semaine dernière. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Mali et face à la recrudescence des actes terroristes, l'armée a changé de stratégie et mène des opérations de ratissage surprise. C'est ainsi qu'elle a pu, dans la région de Mopti, arrêter des terroristes présumés et saisir certaines motos volées. Pendant ce temps, à Bamako, les ex-rebelles revenaient à la table de négociation pour reprendre la mise en application de l'accord d'Alger. C'était à la faveur de la deuxième réunion de haut niveau, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Cette réunion a été marquée par le retour de la CMA au processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Une réunion de haut niveau qui a décidé de la mise en place des autorités intérimaires dans les régions nord du Mali entre le 13 et le 20 février, ainsi que de l'opérationnalisation du mécanisme opérationnel de coordination MOCO, aussi bien à Gao qu'à Kidal. Il y a eu aussi un consensus sur la question des pré-cantonnements. La nomination d'un conseil régional dans les 5 régions nord du Mali, il appartiendra au gouvernement de la République du Mali de nommer le président du conseil régional de la région de Kidal. L'objectif final est de permettre à l'État malien d'exercer à terme sa pleine souveraineté sur la totalité de l'étendue de son territoire. En tout cas, sur le terrain, les populations de Gao sont contre les autorités intérimaires. Elles demandent l'organisation d'élections pour désigner l'exécutif régional. Par ailleurs, l'armée malienne a mené une opération de ratissage à Djaloubé dans la région de Mopti. Bilan, 4 présumés terroristes ont été tués, 17 ont été faits prisonniers, 16 motos ont été saisies par les militaires maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, notre correspondante Narita Namasté nous signale que 6 journalistes ivoiriens ont été interpellés hier à Abidjan et conduits au camp de gendarmerie d'Agban. Selon Yacouba Gbané du quotidien Le Temps, joint par téléphone, les 6 confrères seront conduits ce matin au parquet pour avoir écrit qu'un accord de paiement de primes a été trouvé entre le gouvernement et les éléments des forces spéciales. Il s'agit de Bamba Franck Mamadou, directeur de publication du quotidien Notre Voix, son collègue Yacouba Gbané du quotidien Le Temps et son journaliste Ferdinand Bailly, Vamara Koulibaly, directeur de publication de Soir Info et son rédacteur en chef Amadou Ziao, ainsi que du correspondant de Soir Info dans la région d'Abouosso. En Gambie, un soldat, un ancien membre de la garde rapprochée de l'ex-président Yahya Jammeh a été trouvé en possession d'une arme à feu dans une mosquée où se trouvait le président Adama Barrow. Précision de Jean-Roger Bion.
Le président Adama Barrow participait à la prière vendredi dernier à la mosquée King Fahd de Banjul. Le lieu était sous surveillance et la force ouest-africaine en Gambie avait déployé un dispositif de sécurité. Selon le communiqué de l'OCOMIG, au cours de la fouille des fidèles par un détachement de la gendarmerie sénégalaise, il a été découvert sur le nommé Boubacar Ndiaye un pistolet automatique de Mark L1 de calibre 9 mm avec un chargeur de 8 cartouches à balles réelles. Selon l'OCOMIG, l'individu interpellé est un militaire gambien anciennement détaché à la garde rapprochée de Yahya Jammeh, Le suspect a été remis aux autorités policières avec le matériel saisi pour la suite de l'enquête. La mission militaire ouest-africaine en Gambie vient d'être prolongée de 3 mois. La CEDEAO avait lancé cette opération le 19 janvier pour forcer au départ le président sortant Yahya Jammeh, qui a finalement quitté le pays pour un exil en Guinée équatoriale.
En Centrafrique, la force de l'ONU a dû intervenir samedi avec un hélicoptère pour stopper la progression vers la ville de Bambari des combattants du FPRC de Noureddin Adam. Depuis une semaine, au moins 20 personnes ont été tuées par des combats entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Le point sur la situation à Bambari avec Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA à Bangui.
La situation à Bambari est calme, la population va casser ses occupations, même s'il y a une certaine tension. Par contre, il y a eu cette opération menée par notre force près de la localité d'Ipi, à quelques 65-70 km à l'est de Bambari. Notre force a dû intervenir suite à la violation par le FPRC et sa coalition d'une ligne rouge qui avait été établi, et nous avons estimé que cette violation représentait une menace sur la ville de Bambari. C'était une avancée sur la ville d'Ipi, où se trouvent des éléments de l'UPC. Donc c'était une tentative de la coalition du FPRC, de M. Noureddin Adam, vers cette ville, d'où notre intervention. Des combats ont eu lieu ces dernières semaines dans certaines localités entre Bria et Ipi. Il y a eu, il y a quelques semaines, des combats à Bakar. Nous intervenons de manière impartiale pour protéger les populations de Bambari.
C'était Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique. Il était contacté par Idriss Fall, qui nous parle maintenant du Soudan du Sud, où un influent général a démissionné en accusant le président Salva Kiir de mener un nettoyage ethnique.
Le lieutenant-général Cirilo Swaka a remis sa lettre de démission. D'après ce haut gradé membre de l'état-major, l'armée gouvernementale a été transformée en une armée tribale par le président Salva Kiir et son entourage. Selon lui, les soldats ont participé à des tueries systématiques, des viols de femmes et des incendies de villages sous prétexte de poursuivre les rebelles. Monsieur Cirilo Swaka, qui est de l'ethnie Bari, est originaire de la province d'Équatoria, théâtre ces 6 derniers mois des pires atrocités. Malgré le déploiement de quelques 12 000 casques bleus, les combats font rage dans plusieurs régions et opposent surtout les partisans du président Salva Kiir de l'ethnie Dinka à ceux fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar de l'ethnie Nuer. Des experts de l'ONU ont rapporté début décembre qu'un nettoyage ethnique était en cours, pointant du doigt les exactions perpétrées par des soldats gouvernementaux. Devenu indépendant en 2011, le Soudan du Sud est plongé depuis décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion en urgence sur le tir d'un missile balistique effectué par la Corée du Nord en violation de plusieurs résolutions du Conseil. C'est ce qu'a indiqué la mission ukrainienne qui préside actuellement le Conseil. L'agence de presse officielle nord-coréenne a qualifié de succès ce tir d'essai d'un missile sol-sol de moyenne portée et le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un a exprimé sa grande satisfaction. Ici aux États-Unis, les services d'immigration ont arrêté à travers le pays des centaines de sans-papiers depuis la semaine dernière, bien que les autorités nient qu'il y ait un lien entre cette opération et un récent décret du président Donald Trump. Dans un tweet dimanche matin, M. Trump a écrit « La répression contre les clandestins criminels n'est que l'application de ma promesse de campagne. Des membres de gangs, des trafiquants de drogue et autres sont en train d'être expulsés. » Le président Trump reçoit aujourd'hui le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui espère à cette occasion esquisser un compromis sur le libre-échange, mais aussi faire entendre ses divergences de vues, immigration en tête. Troisième dirigeant étranger reçu par le nouveau président américain, après la Britannique Theresa May et le Japonais Shinzo Abe, M. Trudeau a promis de parler à la fois avec franchise et respect aux locataires de la Maison-Blanche. Adèle, la reine britannique des ballades mélancoliques, a triomphé dimanche aux Grammy Awards en emportant 5 récompenses, dont celle du meilleur album, du meilleur enregistrement et de la meilleure chanson pour Hello. Lorsqu'elle a reçu la récompense suprême pour l'album de l'année, elle a rendu un hommage appuyé à Beyoncé, la grande perdante de la soirée à son album Lemonade. Al Jarreau, qui avait gagné dans sa vie 7 Grammy Awards dans 3 catégories jazz, pop et R&B, est décédé hier à Los Angeles à l'âge de 76 ans. La Minute Éco, Morgan Guiriec.
La conférence Mining Indaba sur le secteur minier, l'occasion pour Jeune Afrique de faire le point sur l'attractivité des pays du continent. Parmi les pays en vogue, on retrouve donc la Côte d'Ivoire et la Guinée. En revanche, la République démocratique du Congo est en baisse, notamment en raison de la crise politique qui inquiète les investisseurs. L'Angola et le Tchad cherchent à développer leurs relations économiques. L'idée est de trouver des hommes d'affaires pour des investissements réciproques, d'après le gouvernement angolais, où s'est rendu le ministre tchadien des infrastructures et du désenclavement. Sont notamment visés les transports et l'agriculture. Cdiscount met fin à son aventure africaine. Le leader français du commerce électronique a fermé sa dernière filiale active sur le continent, celle de Côte d'Ivoire. Sont notamment en cause la mauvaise gestion des livraisons et le manque de partenaires sur place, indique Jeune Afrique.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence par cette tragédie en Angola à l'occasion du match d'ouverture de la saison de football.
Le bilan est lourd dans le nord du pays. 17 personnes ont trouvé la mort selon la police locale et on dénombre une cinquantaine de blessés. Le match opposait le club local Santa Rita, tout nouveau promu en D1, et le Recreativo de Libolo. La police explique que des centaines de fans ont tenté de pénétrer dans le stade déjà plein. Un stade qui peut contenir jusqu'à 12 000 personnes. Lorsqu'un portail s'est effondré sur la pelouse, le match était d'ailleurs en cours et s'est déroulé jusqu'à la fin. Les dirigeants n'avaient, semble-t-il, pas pris la mesure des événements. Un match finalement remporté par Libolo 1-0.
Football toujours sur le continent, on jouait au week-end le tour préliminaire des Coupes africaines de clubs.
Oui, et on connaît les résultats des matchs allés. En Ligue des champions, l'ASV Club de Kinshasa a pris un bon départ en allant battre au Swaziland le Royal Leopard 1-0. Victoire à l'extérieur également de Saint-Georges d'Éthiopie aux Seychelles face au Côte d'Or 2-0. Victoire en déplacement également de Young Africans 5-1 chez Ngaya des Comores. Coton Sport de Garoua a pris la mesure d'Atlabara du Soudan du Sud 2-0. Le Fus de Rabat, lui, n'a pu faire qu'un nul, 1-1 en Sierra Leone contre Youassen. A noter également le nul blanc 0-0 entre l'US Gorée et le Oroya.
Autre résultat dans cette Ligue des Champions pour dire que le stade malien de Bamako a chuté au Liberia.
Effectivement, 1-0 face à Barak Nyung, contrôleuse. Même score pour le CW Sport de San Pedro en Gambie contre Port Authority. Et puis, AC Leopard de Delizy a battu l'USM de Loum 1-0. Ce tour préliminaire a démarré le vendredi et la JS Ouara et Enugu Rangers ont fait match nul, 1-1. Et puis les Gabonais du CF Mounana ont eu raison des Burundais de Vitalo 2-0.
En Coupe de la CAF, Élisée, quid des Algériens de la jeunesse sportive de Kabylie?
Oui, Idrissa, défaite 3-0 à Morovia devant Brewery. 3-0 également en faveur du Maghreb du Fès face au Kara du Brazzaville. Les Soudanais d'Al Hilal ont battu l'équipe de Saint-Michel aux Seychelles 2-0. Les Libyens d'Al Hilal s'imposent eux devant les Kenyans d'Ulinzi Stars 1-0. Enfin, à Libreville, Akanda FC a été tenu en échec par Renaissance Club de RDC 0-0. Les matchs retour de ces deux compétitions auront lieu le week-end prochain. Et puis du basketball pour finir avec vous, Idrissa. Les résultats de la nuit en NBA.
Chicago, Minnesota 89-117. San Antonio, New York Knicks 90-94. Détroit, Toronto 102-101. New Orleans, Sacramento 99-105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les formations politiques de la majorité et de l'opposition ont accueilli favorablement la loi sur le financement des partis, mais quelques leaders de l'opposition estiment que la régularité des scrutins permettra d'identifier les vrais partis qui doivent bénéficier de l'argent public. Selon notre correspondant sur place, Nguela Ngosu, l'État a promis de financer les partis politiques à hauteur de 1 milliard de francs CFA au titre de l'année 2017.
Dans les rues de Brazzaville, les Congolais estiment que ces financements vont contribuer à l'efficacité de l'action des partis politiques. Nombreux, en effet, ne fonctionnent que grâce à l'argent qu'apporte leur président.
Je pense que le financement de la démocratie, c'est une très bonne chose. C'est ce que d'ailleurs tous les partis souhaitaient depuis, d'autant plus qu'il existait déjà au moins 9 qui, déjà de façon officieuse, bénéficiaient de cette subvention de l'État.
L'argent qui sera remis aux partis politiques, c'est pour la bonne marche du pays. Non, c'est pas pour faire la pagaille.
Pour le président du parti CEDER, Bonaventure Bounzika, il ne s'agit pas de se réjouir comme si l'État avait distribué de l'argent au parti.
Il faut désenchanter, il n'y a pas à fêter parce qu'il ne s'agit pas d'un don. En réalité, il ne suffit pas d'avoir un parti politique pour prétendre bénéficier du financement de l'État. Il faut remplir un certain nombre de critères. Il faut avoir de l'ancrage dans les populations, mais le seul moyen pour le vérifier, c'est d'avoir des élus au niveau national et au niveau local.
Armand Pourou, un autre chef de parti, la DDC, se résout déjà à s'appliquer à la nouvelle réglementation.
Les critères ont été déterminés. Maintenant, c'est à nous de travailler pour pouvoir respecter les critères, c'est-à-dire avoir ne fût-ce qu'un député ou six conseillers et avoir un siège à vous-même, acheté, pas en location. Et je crois que déjà au niveau du siège, la DDC remplit les critères. Nous sommes reconnus par l'administration. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'avoir les députés et les conseil à l'Assemblée.
Mais Clément Mirassa voit différemment des choses. Pour lui, la mauvaise organisation des élections fausse même les partis bénéficiaires.
Du financement des partis ne nous gêne pas. Parce qu'en réalité, la démocratie a besoin de l'argent. Et si l'État peut intervenir pour que les partis évoluent dans un cadre bien défini, c'est une excellente chose. Mais quel parti doit être financé? Dans un contexte où les élections posent beaucoup de problèmes, aussi longtemps que les Congolais vont considérer qu'en réalité, au Congo, il ne s'agit pas d'élections, mais de nominations, et que l'élection n'est qu'une mascarade, nécessairement, ça a un impact sur le problème du financement des partis. Donc, il est bon que le problème soit résolu dès le départ, à travers les résultats des élections, libres, démocratique et transparent.
À l'UPADS, la principale formation de l'opposition, cette loi ne crée pas l'événement. Ce parti bénéficie en effet depuis 2014 des financements publics, mais cumule déjà quelques 9 trimestres d'impayés. Nguela Ngosu, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Mali, fin de la grève illimitée des magistrats suite aux travaux de la commission de conciliation qui a permis un accord entre le gouvernement et les magistrats. De Bamako, compte rendu de notre correspondant Kassim Traoré.
Après des échanges avec le gouvernement, des chaudes empoignades entre magistrats pour des questions de leadership, les magistrats maliens retrouvent enfin les chemins des tribunaux. Siaka Koulibaly, vice-président du syndicat libre de la magistrature Silima.
Un accord partiel, premièrement sur le salaire, un accord sur l'indemnité de judicature, un accord sur l'indemnité de logement, un désaccord total sur l'indemnité de mouture. L'accord est entier entre le gouvernement et nous sur toutes les questions d'ordre institutionnel. La signature du PV de conciliation, à notre sens, n'est qu'une formalité.
Pendant un mois, les magistrats maliens étaient entre Assemblée générale et des rencontres avec les couches de la société civile malienne. Moussa Guindo, magistrat gréviste.
Nous avons décidé de rentrer pour deux raisons. Parce que nous sommes sortis pour l'amélioration des conditions des magistrats du Mali. C'est vrai, on a eu des miettes, ça peut nous aider à continuer le combat. Deuxième aspect, nous avons fait parce que nous rendons justice au nom du peuple malien. Ce peuple souffre. Aujourd'hui, il y a des concours qui sont pointés à l'horizon pour la jeunesse. Moi, étant jeune, je pense que cette grève-là, sur le mot d'ordre élevé, c'est pour la population.
Pour le secrétaire aux relations extérieures du syndicat autonome de la magistrature SAM, il y a eu des avancées qui permettent d'aller à la levée du mot d'ordre de grève illimitée. Draman Djara.
Il y a eu la poursuite des discussions. On a vidé l'ensemble des 6 points de revendication. Et ainsi, il y a eu 2 accords partiels sur 1, le salaire, 2, les indemnités et 4 accords sur les questions d'ordre institutionnel.
Si la joie était visible sur le visage des magistrats de Bamako, ceux de l'intérieur du pays n'ont pas caché leur mécontentement, car la grève illimitée n'a pas pris en compte leurs préoccupations.
Moi, c'est Issa Jassana, juge au siège, tribunal de grande instance de Mopti. Bon, d'abord, à Mopti, au-delà des difficultés des conditions de vie, il y a les difficultés des conditions de travail, notamment des difficultés sécuritaires, parce qu'à notre niveau, il n'y a que 2 gardes. Au niveau du TGI, et nos domiciles ne sont pas du tout protégés. Nous sommes exposés à toute forme d'attaque. Malheureusement, on n'a pas touché aux problèmes sécuritaires, surtout des magistrats qui sont à l'intérieur du pays.
À signaler que la grève des magistrats a duré 1 mois, avec de nombreuses conséquences sur le plan économique, social et même juridique, car plusieurs prisonniers arrêtés n'ont pu être déférés à temps, faute de juges. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, la société civile demande une révision du vieux code de la nationalité jugé inadapté aux réalités du monde moderne, mais surtout discriminatoire à l'égard des femmes. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
La loi sur la nationalité en vigueur au Togo date de 1978. Le code de la nationalité devait être actualisé au lendemain du vote de la constitution de 1992, mais 25 ans après, la révision de la loi n'est pas encore effective. Pour l'association Questions de femmes, la loi de 1978 dispose des articles jugés discriminatoires à l'égard des femmes. Maître Stéphanie Nabédé, présidente de l'association Questions de femmes, revient sur 3 discriminations notables.
La première discrimination, lorsque vous prenez l'article 3 de la loi de 1978, cet article pose le principe selon lequel est togolais tout enfant né de père togolais, est togolais tout enfant né de mère togolaise lorsque la nationalité du père de l'enfant est inconnu ou bien le père de l'enfant est lui-même inconnu. La deuxième discrimination, lorsque la femme étrangère se marie au Togolais et qu'elle a la nationalité, elle perd cette nationalité du fait du divorce. La troisième discrimination, c'est que la femme étrangère qui se marie à un Togolais a automatiquement la nationalité, mais au niveau de la femme togolaise qui se marie à un étranger, elle ne peut pas transmettre la nationalité. Son mari est obligé de passer par le biais de la naturalisation.
En 25 ans de mariage et résidant au Togo avec son mari, la Togolaise Dorothée Iloudje, épouse Moubambi, n'a pas pu transmettre sa nationalité à son époux.
Mon mari, il est étranger et ça fait plus de 25 ans qu'on est au Togo et il a essayé d'obtenir la nationalité parce que pendant ces 25 ans, il doit toujours faire le séjour. Pour qu'il obtienne la nationalité togolaise, il devait renoncer à sa nationalité. Donc c'est là où le bas avait blessé. Il n'a pas pu, puisque nous avons des enfants. C'est les enfants qui posaient les questions à leur papa. Si c'est pour lui seul, il n'y a pas de problème. Mais les enfants ont dit, papa, dans 20 ans, dans 50 ans, si nous on veut retourner chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On recommence à faire les papiers là-bas, c'est pour ça qu'il est bloqué.
La directrice du sceau de la nationalité et de l'identité civile soutient que les dispositions contenues dans la loi incriminée et qui sont contraires à celles de la Constitution ne sont plus appliquées. Victoire Chamdia Pacha.
Depuis 1992, la transmission de la nationalité se fait par la mère, tout comme par le père. C'est la méconnaissance des tests qui fait qu'il y a toujours un mythe autour. Le Togo aussi, en 2007, a déjà consacré cette égalité dans le code de l'enfant, en son article 21, qui consacre la transmission aussi bien à l'homme qu'à la femme de sa nationalité. Donc aujourd'hui, il est question simplement, à mon avis, de transposer ces différents articles introduits dans des lois postérieures au code de la nationalité dans ce code.
Aujourd'hui, il est reconnu dans la pratique que les Togolaises transmettent leur nationalité à leurs enfants sans aucune condition. Mais c'est la transmission de la nationalité de l'époux de sexe féminin à son conjoint de sexe masculin sans naturalisation de ce dernier qui n'est pas encore admise. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
À l'occasion de la Journée mondiale de la radio instituée par l'UNESCO et célébrée chaque 13 février, nous nous rendons au Niger où notre correspondant Abdulrazak Idrissa est allé à la rencontre des populations de Kolo, localité située à une trentaine de kilomètres de Niamey, la capitale, pour les entendre parler de la radio et de ce qu'elle leur apporte dans leur vie. Son reportage.
Hadi Amadou est éleveur dans un village environnant de Kolo. Pour lui, la radio a de nombreux avantages.
Sans la radio, nous ne savons même pas ce que font nos dirigeants. Nous apprenons aussi beaucoup de choses à travers la radio. Rien qu'hier, je suivais une émission qui parlait de comment mieux éduquer nos enfants.
Abdul Karim Hassimiou est lui fonctionnaire. Il possède une rizière au bord du fleuve Niger à Kolo. Il part y travailler tous les week-ends. Ce samedi matin, nous l'avons interrogé juste avant son départ.
Est-ce qu'il y a des programmes que vous suivez, par exemple, pour mieux améliorer votre activité sur la rizière?
De temps en temps, on prête fine oreille, surtout quand il s'agit des attaques acridiennes. Il y a des interventions locales, des progrès scientifiques au niveau local qui peuvent nous permettre de combattre tel ou tel fléau.
Sur les radios ici à Kolo, l'on écoute un peu du tout. Témoignage.
Nous écoutons tout ce qui est information. Nous écoutons également les émissions telles que les débats sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et nous en tirons beaucoup de bénéfices. Tout ce qui se passe ailleurs, si tu ouvres ton poste radio, tu seras au courant. Et tu peux informer les autres.
Je m'appelle Kaligitou Mounjibo, fidèle auditrice de radio. J'écoute particulièrement les infos. Puisque en écoutant les informations, on reçoit tout ce qui se passe dans le pays et à l'extérieur en particulier.
Est-ce que vous pensez qu'elle contribue au développement local?
Plus que le mot même. Puisque en écoutant la radio, on aura des sensibilisations, des informations pour éviter des conflits entre éleveurs et agriculteurs.
Un fait curieux cependant, malgré la multiplication des médias communautaires, la localité de Kolo, du fait certainement de sa proximité avec Niamey, ne dispose pas encore d'une station de radio.
Si vous avez une information ou un message à passer, il faut véritablement aller à Niamey, vous comprenez? Alors que si la radio était là, on pouvait passer nos communiqués sans nous déplacer. Quelquefois, le déplacement peut causer un problème.
Abdullah Razak Idrissa, de retour de Kolo pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, plus de 35 000 festivaliers ont chanté et dansé durant tout le week-end au festival Amani, c'est-à-dire la paix, à Goma, dans le Nord Kivu. De Goma, donc, Charlie Kasereka.
Devant un public varié, tous chantant à la fois à l'unisson autour d'un même thème qui est la paix.
Notre présence ici, ce n'est pas parce que nous avons la paix, non, c'est parce que nous voulons la paix. Vraiment que les artistes en profitent, que les artistes maximisent ces moments que nous avons ici pour adresser le vrai message de la paix aux autorités qui sont ici présentes.
Abbas, lui, est un journaliste burundais et amateur de la culture, pense qu'il est pour lui le moment d'écrire autre chose que les papiers sur les conflits armés.
Plus de 20 ans de carrière, j'ai l'impression que je n'ai écrit que des morts sur des morts, des tueries. Il faut que j'écrive sur autre chose, parce que j'ai grandi, il y avait des guerres, je deviens journaliste, il y a des guerres, je ne couvre que des guerres, donc pour le moment, j'aimerais faire d'autres papiers sur le développement, sur la paix. J'interpelle nos autorités pour que je puisse avoir cette chance.
L'événement fait aussi un moment de rencontre entre autorités politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Patrick Mundeke est un acteur politique de l'opposition ici à Goma.
Vous m'avez vu m'asseoir avec les amis de la majorité, bien qu'étant de l'opposition, ça veut dire que la musique a une force de rassembler les gens. Peu importe nos tendances politiques, nos convictions. Et puis avec tout le stress que nous avons connu dans ce pays depuis 20 ans, pour nous c'est des moments très très importants.
Les festivals restent un moment d'échange et de partage entre les artistes de la région. Une façon surtout de vendre une autre image des Grands Lacs et de la province du Nord Kivu en particulier, trop souvent associée au conflit, souligne le gouverneur Julien Paluku qui parle aujourd'hui des avantages économiques pour la province à travers cet événement.
Quand vous voyez l'essor économique qu'il y a dans la province, quand vous voyez les ambassadeurs qui se bousculent pour arriver ici, qui disent, eh bien, ils viennent voir ce qui se passe parce qu'il y a un festival qui court. Donc, je pense que l'impact est grand en cette 4e édition et je suis convaincu que nous allons avoir des effets positifs.
Vianney Bissimoua est l'un des organisateurs de ce festival.
Nous voulons que les gens arrêtent de considérer la paix comme un grand événement, mais comme le choix de vie de tous les jours que nous faisons, familial, professionnel, n'est-ce pas, nous puissions véhiculer des valeurs qui vont faire construire la paix.
À la veille de l'ouverture de cette 4e édition du festival Amani, un policier a tiré à balles réelles sur un jeune volontaire lors d'une dispute, mais l'incident n'a pas empêché le bon déroulement de cette messe culturelle devenue un rendez-vous annuel ici au Nord Kivu. Charlie Kasereka, depuis les foyers culturels de Goma, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et Dan Albertson. Washington.